Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il est musicien, compositeur, arrangeur et improvisateur. Il est sans doute le plus américain des trompettistes français. Il a commencé en France, à LH, Le Havre, en Normandie, mais a joué des pistons jusqu'à LA, Los Angeles, en Californie. Sa trompette, il l'a mise au service des plus grands, Jimmy Cliff, Laurent Pani, Slimane, Christophe Maé et surtout Lenny Kravitz. Il les a tous accompagnés sur scène, avant de jouer plus tard avec Black Eyed Peas, Shawn Mendes, Camila Cabello ou Kanye West. Ludovic Louis est avec nous. Il vient nous présenter Rebirth, son premier album solo, un disque de jazz très personnel, matiné de ses origines martiniquaises, et vous m'en direz des nouvelles. Ludovic Louis.
Bonjour.
Rebirth, c'est le titre de ce morceau qui donne donc son nom à cet album. Rebirth, ça veut dire renaissance. Cet album, c'est le début d'une nouvelle carrière pour vous ?
Oui, j'ai envie de dire un nouveau départ. Un nouveau départ parce que voilà, je suis toujours sideman auprès d'artistes, mais j'avais surtout envie de me livrer en tant qu'artiste solo. D'où le nom Rebirth de l'album.
Pourquoi est-ce que vous avez attendu autant, justement, avant de franchir le pas? Il y a eu un déclic, il y a eu un événement qui vous a fait dire, bon, bah voilà, ça y est, c'est le moment?
Non, en fait, j'ai travaillé sur cet album depuis des années et je suis quelqu'un de très insatisfait. Je trouve toujours des petits détails à changer, lorsque j'ai fait des prises, je trouve toujours des, voilà, ça allait pas, le mix n'est pas bon, peut-être que j'aurais dû rajouter une batterie là-dessus ou un pied. Et donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et à peu près une dizaine d'années, j'ai envie de dire.
Ah oui, mais alors l'idée de vous lancer en solo, donc il y a à peu près 10 ans,
à peu près, voilà,
ça vous est venu comment? Ça vous est venu comme ça? On vous a poussé à le faire? C'est une décision personnelle?
C'est une décision personnelle parce que j'avais envie de m'exprimer en tant qu'artiste.
Vous vous exprimiez déjà en tant qu'artiste.
Oui, mais je veux dire en tant qu'artiste solo, parce que j'avais des choses à dire. Je ne chante pas, du moins pas en tant que frontline chanteur, mais en tant qu'artiste, j'avais envie de m'exprimer via ma trompette et faire passer les émotions via ma trompette. Et bon, j'ai commencé à écrire des titres avec mon ami Stéphane Filet, qui est un chanteur. On a commencé à écrire des titres, et puis je me suis dit, ah oui, tiens, j'aime bien. Et de fil en aiguille, j'ai continué à composer, et c'est comme ça que voilà, j'ai voulu faire cet album au bout de tant d'années.
Et voici donc 11 titres enregistrés entre la France et les États-Unis, 11 titres entre soul, funk, musique caribéenne. C'est un peu votre carte d'identité musicale, cet album.
Oui, sont toutes mes influences, mes origines antillaises, donc martiniquaises, qu'on peut entendre sur certains titres, mon parcours. Rock aussi, qu'on peut entendre sur un ou deux titres de l'album, mes influences soul, funk, Two Scare, Earth, Wind & Fire, James Brown, tout ça, ce sont des musiques que j'ai écoutées aussi depuis tout gamin. Donc, toute cette influence-là, tout ce mix-là, j'ai tout mis dans l'album et voilà quoi.
Et l'album commence par Madinina.
Thank you.
Madinina, c'est le morceau qui ouvre et qui ferme ce premier album solo, Ludovic Louis. Quelle différence d'ailleurs entre les deux versions, celle d'ouverture et celle de clôture?
Oh ouais, c'est juste un intro et une outro. C'est le même morceau. J'ai voulu que ce soit un peu peut-être le fil conducteur, l'identité, donc la Martinique. Faire un hommage à la Martinique en début d'album et rendre un hommage à la Martinique en fin d'album, c'est le même morceau que j'ai juste chanté et voilà la force des tambours pays, la flûte de Mario Mas, et c'était important pour moi que ce soit en ouverture, en fermeture de mon album.
Madinina, c'est le nom amérindien, c'est ça, de la Martinique. C'est l'île dont votre famille est originaire, mais c'est pas votre île natale, puisque vous n'êtes pas né là-bas.
Non, hein. Je suis né au Havre, et mon père est né en Martinique, il est né en Lamantin, plus précisément à Roche-Carré. Du côté de ma mère, son grand-père était martiniquais aussi. Donc voilà, j'ai une attache très forte avec cette île. J'y ai passé beaucoup de temps étant gamin.
Vous l'avez découverte à quel âge, la Martinique?
Je crois que la première fois que j'y suis allé, je devais avoir 2 ou 3 ans, quoi. Et encore, je pense même plutôt, je crois 1 an dès que je suis né, mes parents m'ont emmené là-bas et j'ai une attache très forte avec l'île. C'est important pour moi de m'y rendre souvent. C'est mes racines et j'en ai besoin aussi pour m'inspirer dans ma musique au quotidien. Et dès que je peux et que j'ai un peu de temps, j'essaye de m'y rendre et de passer du temps avec ma famille et mes amis et aller écouter de la musique et voilà, prendre les sons, prendre l'énergie du pays.
Mais alors justement, à quoi est-ce qu'elle ressemble, la musique martiniquaise?
Il y a la biguine, déjà. La biguine, c'est pour moi, c'est la base. Et après, il y a toutes les dérivées avec le groupe, par exemple, Kassav, avec le Zouk, qui est pour moi le plus grand groupe antillais, qui a fait connaître aussi les îles françaises des Caraïbes sur la carte du monde. Et le Zouk, les tambours pays, toute cette culture, des sons tambours africains qu'on retrouve aussi dans notre musique.
Et au-delà de Madinina, ces sources-là, elles ont aussi irrigué votre travail de composition ou d'arrangement?
Oui, parce que comme je vous disais, j'écoute énormément de musique. J'écoute de tout, je m'influence de pas mal de choses. Et bien sûr que la musique antillaise, le jazz caribéen, que ce soit des Alain Jean-Marie, Mario Canonge ou autres, m'ont permis d'ingérer cette musique, d'en faire ma sauce, faire un mélange de tout et d'essayer de la reproduire en essayant de faire mon son et ma musique.
Mais alors quand vous étiez gamin au Havre, dans une famille d'origine martiniquaise, on écoutait quoi à la maison?
On écoutait tout. J'ai un père qui est mélomane, qui adore la musique, qui a une armoire remplie de vinyles, de cassettes VHS, de concerts de jazz, de concerts de que ce soit de la musique bien sûr antillaise qu'on entendait à la maison souvent, de la musique latine. J'écoutais beaucoup de salsa. Mon père adore la salsa, donc il m'a inculqué ça depuis tout petit. De la musique américaine aussi, avec tout ce qui était soul funk. Et par exemple, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que un jour, mon père, j'écoutais le titre des Fugees, Killing Me Softly, et il me dit, mais tu connais la version originale? Mais j'étais tout gamin et je dis, version originale, et là il me sort l'album de Roberta Flack et il me met la version originale et oui. Et donc voilà, c'est souvent des échanges et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont permis d'écouter beaucoup de choses. Mon grand-père maternel était violoniste aussi. Ça m'a permis d'écouter beaucoup de musique et d'avoir de l'influence pour voilà moi ingérer ça et le ressortir par la suite pour l'album.
Missing You, c'est un morceau qui s'adresse justement, je crois, à votre famille, Ludovic Louis.
Oui, c'est un titre que je leur ai écrit. J'habite à Los Angeles, eux sont en France, et c'est vrai que des fois la distance est difficile. On peut pas se voir, on s'appelle, mais c'est difficile. Il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Et j'avais décidé de leur écrire ce titre qui m'est arrivé un soir. J'étais à la maison, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur, des photos qui sont arrivées sur l'ordinateur, et j'ai pensé à ma famille, et ce thème m'est arrivé. Il m'est arrivé comme ça. Je me suis mis sur une feuille de papier, j'ai commencé à écrire les notes de musique, et ce titre est arrivé en deux jours. J'ai dû l'écrire, Missing You. Donc
ça a été dur de partir, de quitter sa famille, de vous lancer dans cette carrière internationale qui vous fait quand même beaucoup voyager, et pas toujours du côté de la France.
Alors j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu depuis le départ. Quand j'ai pris la décision de partir aux États-Unis, tout le monde m'a dit: écoute, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y, fonce, on sera derrière toi à 3000%. Il y a pas de, ne te retiens pas de faire quelque chose qui va t'éclater ou qui va te rendre heureux. Nous, tu sais qu'on sera heureux de te voir heureux. Donc, si tu veux y aller, vas-y, nous, on sera derrière toi. Et c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire.
Donc, famille de mélomanes, on le disait tout à l'heure. Famille de musiciens aussi, des gens qui pratiquaient ou qui pratiquent encore des instruments de musique.
Alors, mon grand-père était maternel, donc était violoniste. Ma sœur a joué un peu de percussion, de piano. Et voilà, à la maison, c'est la musique, comme je vous disais. Je me rappelle des souvenirs du dimanche matin, gamin. Moi, ce qui me faisait me réveiller, c'était le vinyle qui était posé, qui passait en boucle dans le salon. Donc je disais: ah tiens, il est l'heure de se lever. Donc je descendais. Ouais. Mon père qui écoutait sa musique, et voilà. Et ils nous ont permis de faire plein de trucs. Ils nous ont amenés au cours de jazz. Ils nous ont amenés au cours de d'instruments. Ils nous ont amenés au cours de les orchestres et tout ça. Donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir baigné là-dedans, et d'avoir des parents qui m'ont poussé à faire ça, qui ont mis de l'énergie, du temps pour ma sœur et moi, pour qu'on puisse essayer des choses, des instruments, la musique, et voilà.
Alors, je peux comprendre que vous n'avez pas commencé par la trompette, c'est vrai?
Non, j'ai commencé par le piano à 5 ans, et la trompette est arrivée quelques années après, en voyant mon premier professeur au Havre, Alain Loisel, qui était mon professeur de jazz. Et il y a eu un déclic quand je l'ai vu jouer la première fois. Je vous parlais tout à l'heure d'émotion. On était toute une bande de gamins assis par terre à voir les différentes personnes qui venaient nous présenter leurs instruments. Et lui est arrivé avec la trompette, il a joué quelques notes. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a tellement touché que je suis arrivé chez moi, j'ai dit à mes parents: papa, maman, bon, je veux faire ça. Ils m'ont dit: mais t'es sûr? Je fais: ah oui. Ils m'ont dit: mais t'es vraiment sûr? Ah oui, non, c'est ça que je veux faire. Alors, j'ai fait la trompette et le piano pendant quelques années en parallèle. Et puis, à un moment donné, j'ai lâché le piano pour vraiment me consacrer à la trompette.
Alors, c'est difficile toujours de mettre des mots sur une émotion qu'on ressent comme ça, sur une espèce de coup de foudre comme ça. Qu'est-ce qui vous a plu dans la trompette? C'est le geste, c'est l'instrument lui-même, c'est les sonorités, c'est la façon de jouer de Loisel?
Je pense que ce qui m'a vraiment touché, c'est le son, la qualité, la beauté de son son. C'est il y a aussi sa présence sur scène. Voilà, il était là, il était sur lui, il a fait les notes qu'il a faites, même si elles étaient très peu, elles m'ont touché. Et la beauté de son son, justement, il a fait passer une émotion à travers cet instrument, sans la voix, mais par le métal. Et le métal, ça m'a touché. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire cet instrument.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire, votre instrument, Ludovic Louis? Imaginez que quelqu'un qui nous écoute là n'a jamais vu de trompette de sa vie, n'en a jamais entendu le moindre son. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire?
Alors, la trompette, pour moi, c'est un très bel instrument. C'est un instrument en cuivre, avec trois pistons, bien sûr. Et pour faire un son, on est obligé d'utiliser une embouchure, ce qu'on appelle une embouchure, qu'on met au bout de l'instrument. Et la vibration entre les lèvres et cette embouchure, qui résonne à l'intérieur de l'instrument, fait que quand ça sort par le pavillon en extrémité, donne un son, la vibration des lèvres, de l'embouchure et de l'instrument donne un son. Et après, il y a aussi les pistons qu'on actionne avec différentes combinaisons pour faire les notes.
Alors, est-ce que vous en avez plusieurs des trompettes? Vous en avez, oui. Vous en avez qu'une? Vous les collectionnez?
Oui, j'en ai plusieurs. J'ai la chance d'être suivi par une marque hollandaise. Bon, je vais pas la citer non plus, mais qui me suit depuis des années, qui a eu confiance en moi, qui a cru en moi. Et voilà, j'ai la chance d'avoir différentes trompettes à la maison. J'en ai plein. J'en ai certaines que j'utilise pour, par exemple, si je dois jouer en section. Avec un son un peu plus brillant, j'utiliserai celle-ci. Si je joue en solo, par exemple, lors de cadre de concert intimiste, j'utilise une autre trompette qui a un son un peu plus mat. J'ai le bugle aussi, qui a un son qui décrire ça comme une plus grosse trompette, ouais. Qui a un son plus chaleureux. Et oui, je dois en avoir, je crois, une petite dizaine à la maison. Donc.
Bon, vous êtes venu avec une de vos trompettes. Elle a un petit nom, cette
non,
trompette
je leur, non, quand même pas. Je leur donne pas de nom, mais celle-là, elle est. J'ai de la chance, voilà, d'avoir une couleur particulière. Elle est noire en extérieur avec un l'intérieur du pavillon qui est bleu et les pistons qui sont bleus.
Alors la trompette, vous l'avez apprise dans une école renommée, le Jupo, Jazz Union de la Porte Océane, donc au Havre, hein, oui. L'école de jazz havraise, reconnue dans le monde entier quand même.
Oui, je pense. On a fait, il y a eu pas mal d'élèves qui en sont sortis. C'est une école qui, pour moi, m'a appris beaucoup de choses. Les professeurs qui étaient ont pris du temps pour nous, sont des personnes passionnées. Malheureusement, cette école a fermé. Mais je me rappelle, j'ai des souvenirs de ces hommes et ces femmes qui prenaient du temps pour nous faisaient justement écouter aussi de la musique.
Ça commence par l'oreille. Avant le son et les doigts.
En fait, on avait les ateliers d'éveil musical où on était ensemble, voilà, et nous on avait différents instruments, par exemple des petites percussions, donc on tapait dessus, les petits pianos, les petits xylophones, où voilà tous ces sons qui arrivaient à nos oreilles, ça nous a formés. Et après, chacun a décidé de prendre des instruments, d'autres des plus sur la guitare et d'autres plus sur les cuivres, la batterie, tout ça.
Mais quand on commence la trompette, qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Le son, parce que c'est le fait d'arriver à avoir un son correct, ça met du temps. Et gamin, voilà, si on comprend pas la relation qu'on a entre les lèvres et l'embouchure, c'est un peu difficile. Donc,
il faut apprendre à apprivoiser l'instrument en quelque sorte. Il faut tâtonner ou il y a des règles très précises.
Il faut pratiquer. Il faut passer du temps dessus. Il faut faire le buzz, qu'on appelle le buzz avec les lèvres, pour arriver justement à faire cette vibration entre les lèvres et l'instrument et l'embouchure. Donc oui, alors, ça peut être vite frustrant si on n'arrive pas à avoir un son correct d'entrée, mais je pense que c'est plus facile quand on est gamin que quand on est adulte. Je sais que adulte, c'est un peu plus difficile parce qu'on commence beaucoup à réfléchir. Gamin, moi, je me rappelle, voilà, il me dit, faut que tu fasses comme ça. Bah, je faisais comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris, j'ai écouté son son. Mon professeur me faisait écouter différents artistes, dont certains dont je me suis inspiré par la suite. Mais j'ai écouté ses sons, j'essaie d'arriver à ça, pratiquer, et puis après ça coule de source, j'ai envie de dire.
Et après le Jupo, donc le Conservatoire du Havre, hein, dans la classe du trompettiste et chef d'orchestre Sylvain Maillard, formation exactement. Plus académique là cette fois-ci.
Classique, oui. Et en fait, j'ai eu la chance de faire les deux en parallèle. J'ai dû commencer la trompette classique, je pense, même pas une année après avoir commencé la trompette jazz. Ouais. Donc, ce qui fait que pendant toutes mes années de formation de trompette, j'ai fait les deux en parallèle. Ce qui fait que j'avais mes cours de trompette jazz, mais aussi mes cours de classique. Et j'ai eu la chance aussi de faire différentes formations, des formations jazz, des combos latines, des combos un peu rock. Qui me permettait moi d'improviser, mais je me retrouvais aussi en orchestre jazz, en orchestre classique, où là il fallait vraiment apprendre la rigueur, le son surtout qui était important, écouter, voilà, compter son nombre de mesures, arriver à faire être très précis dans son jeu. Donc les deux m'ont aidé à parfaire ma formation pour après décider de ce que je voulais faire.
Et dans votre parcours, notamment aux États-Unis, qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous, cette formation de jazz ou cette formation classique?
Ma formation de jazz, parce qu'en fait, j'ai un, Quand j'ai eu mon diplôme au Havre, j'ai quasiment arrêté du classique. Je me lançais plus, j'avais plus envie de faire de la variété, de la musique, musique actuelle, du jazz surtout. Et comme c'était vraiment moi ce qui me touchait, et qu'aux États-Unis, voilà, moi j'ai toujours aimé cette musique solo, cette musique noire américaine. Là-bas, je me suis retrouvé dans le berceau de tout ça. Et c'est plus vraiment le côté jazz qui m'a aidé.
Way to go, nouvel extrait de l'album Rebirth de notre invité, le trompettiste Ludovic Louis dans VMDN sur RFI. Alors justement, puisqu'il est question de chemin à prendre, de quelle route suivre, comment est-ce qu'on passe justement du conservatoire du Havre ou de cette école de jazz qu'on évoquait à la télé, à la musique populaire et grand public plutôt rock? Parce que quand vous montez à Paris, ce n'est pas le jazz, c'est pas le classique non plus qui vous tend les bras.
Non, c'est surtout des rencontres. Moi, je pense que les rencontres qui ont jalonné ma vie jusqu'à présent m'ont toujours été pour une raison. Je crois beaucoup au fait qu'on rencontre pas des gens par hasard. Et tous mes amis que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, ça a toujours été, voilà, par exemple, pour Paris, quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré Philippe Slominski, qui est un immense trompettiste, qui a joué avec, je vais pas citer tout le monde, mais il m'a proposé mon premier gig pour le remplacer sur une émission de télé. Après ça, je rencontre d'autres personnes sur place qui elles me recommandent sur d'autres trucs. Après voilà, ce sont souvent le fait de rencontres qui font que à l'arrivée je me suis retrouvé aux États-Unis, j'ai envie de dire.
Bon, les plateaux télé, c'est formateur?
Oui, parce qu'on est dans la précision. On est dans la précision surtout quand on est live à la télé. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et si on rate quelque chose, on peut mettre en péril, entre guillemets, peut-être des choses de danse, des pas de danse, par exemple, sur une certaine émission de télé où des danseurs professionnels concourent avec des célébrités. Si on se trompe dans certaines choses, on peut mettre en péril un step qui a été préparé à l'avance sur ce qui avait été vu en répétition. Et quand on est live à la télé, c'est difficile, il faut pas se rater, j'ai envie de dire.
Alors, c'est sur un plateau télé que vous avez rencontré Lenny Kravitz?
Non, je l'ai rencontré à Paris. Il faisait une émission, un concert caritatif. Il répétait à Paris, et un de mes amis, Mathieu Taff, qui était son saxophoniste de l'époque, m'appelle un soir et me dit, bon, Ludo, ça va? J'espère que t'es chez toi. Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que tu peux venir à cette adresse, s'il te plaît? Mais tout de suite. Je lui dis, bon, pourquoi? Mais non, pose pas de questions, prends ta trompette et viens. Et donc, je me retrouve, à cette adresse. Et là, je me retrouve en répétition avec Lenny, qui jouait le lendemain. Et donc, on a répété ce soir-là 4 titres. Et Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Mais c'est lui qui a dit à votre ami saxophoniste de vous appeler.
En fait, il avait besoin d'un trompettiste parce que son trompettiste n'était pas là ce jour-là. Et il voulait faire, je pense, une formation réduite pour ce concert. Puis il s'est dit, ah non, en fait, ce serait bien qu'une trompette. Et il a demandé aux deux saxophonistes qui étaient là, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et mon ami a suggéré mon nom. Et d'où les fameuses rencontres. Mon ami m'a suggéré mon nom. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce gig, si je puis dire.
Et au bout de combien de temps, il vous a quand même proposé, justement, de vous engager plus durablement avec lui?
Il m'a proposé ça, au bout d'un an et demi, 2009. Oui, au bout d'un an et demi, oui. Au bout d'un an et demi, il m'a appelé, il m'a dit voilà, donc je vais préparer une nouvelle tournée et j'aimerais savoir si tu serais d'accord pour rejoindre mon équipe. J'ai sauté sur l'occasion parce que oui, c'était voilà, c'est.
Vous l'avez refusé.
J'allais pas.
Mais vous avez l'impression qu'il vous avait testé justement pendant ces quelques mois-là?
Je pense, oui.
Vous le sentiez venir quand même?
Je pense. Non, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien et on sait que voilà toutes ces stars là entre guillemets, ils ont plein de gens à disposition aussi et je pense que j'ai essayé de faire mon mieux le jour où il m'a appelé donc pour faire ce concert à Paris. J'ai donné tout ce que j'avais et je pense que voilà, j'ai marqué des points ce soir-là.
Ouais, et avec les autres musiciens puisqu'il avait évidemment toute une section de cuivre avec lui. Ça s'est passé comment? Ils vous ont accueilli comme le petit Frenchie de service?
Oui, c'était
à bras ouverts. Comment ça s'est passé?
C'était marrant parce que donc on a répété, je me rappelle du premier la première fois où j'ai rencontré Harold Todd qui est son saxophoniste depuis des années. On s'est retrouvé à répéter, donc on se rencontre, on se dit bonjour. Il dit bon bah on va travailler les lignes ensemble, donc viens sors ta trompette et on y va quoi. Et en fait il a été super accueillant, super gentil. Toute l'équipe m'a vraiment mise à l'aise parce que moi quand même j'arrivais, pour moi je jouais, c'est comme si j'allais jouer la Ligue des Champions. Ouais. Et je me retrouve là avec tous ces musiciens voilà qui ont un passif background monstrueux de musiciens talentueux, et moi en tant que petit français j'arrive là-dedans et tout le monde m'a mis à l'aise. Tout le monde m'a mis à l'aise, Harold m'a mis à l'aise, il m'a appris les parts, il m'a dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, et j'ai tout appris, et tout le monde m'a pas justement regardé en tant que c'est qui de nouveau, il sort d'où, mais plutôt voilà, accueillant, et je les en remercie pour ça.
Mais comment ça se passe, les relations entre une grande star internationale comme Lenny Kravitz et ses musiciens?
Super.
Comment il est, Lenny Kravitz,
super,
dans le boulot, quoi?
Il est adorable. Bon, par contre, il est très rigoureux.
Ouais.
Très, très, très rigoureux. J'ai appris ça de lui aussi, cette rigueur de. Quand il veut quelque chose, il faut que ça sonne la façon dont il a envie que ça sonne. Ben, on travaille dessus, on travaille, on peaufine, que ce soit en studio, que ce soit en live. Mais c'est une personne attachante, adorable et qui est proche de ses musiciens.
Avec toujours une possibilité pour vous d'improviser, de vous mettre en valeur lors des concerts. On improvise réellement d'ailleurs, ou une improvisation, si j'ose dire, ça se travaille, Ludovic Louis.
Les émotions, on ressent ce qui se passe sur le moment. Je sais que j'ai eu la chance d'être qui me laisse m'exprimer sur scène. Et il me laissait toujours un moment dans le spectacle où je me retrouvais tout seul avec les musiciens à faire mon truc. Et là, c'est vraiment une connexion qu'on a entre nous, qu'on a aussi avec le public qui est présent. Toute cette tout ce qui se passe dans l'air, tout ce qu'il flotte dans l'air fait que moi je reçois ces informations et j'essaie de ressortir ça via mes émotions, via la trompette, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et en 2012, à Las Vegas, vous jouez ceci. Un genou à terre. Et devant qui, Ludovic Louis?
J'ai la chance de me retrouver devant messieurs Quincy Jones et monsieur Mohamed Ali.
Bon, excusez du peu, quand même. Vous avez prévenu? C'était...
Non.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. C'était une réelle surprise pour moi. À ce moment du concert, j'avais généralement un interlude entre deux titres. Je faisais la transition entre deux titres. Et là, ce soir-là, Lenny a arrêté le groupe. Et juste avant que je joue, il dit voilà, on va accueillir deux légendes. Et là, il fait rentrer messieurs Mohamed Ali et Quincy Jones. sur scène. Donc moi, je les vois arriver sur scène, je suis assez estomaqué par ça. Sachant que la veille, on avait joué aussi pour les 70 ans de Monsieur Mohamed Ali. Donc, il y a tout un espèce de, voilà, comme je disais, qui flotte, un espèce de, d'air un peu incroyable qui flotte dans l'air. Et avant de commencer le titre Black and White America, il me dit, voilà, on va faire le titre Black and White America, mais avant, on va commencer par un solo de trompette. Et il dit, Ludo, vas-y. Et là, je me retrouve sur scène. Et en fait, en une fraction de seconde, j'oublie que je suis à Vegas, j'oublie que je suis en plein concert. Je commence mon solo, il me fait signe d'avancer. Et là, je me retrouve en fait en face de ces deux icônes. Et mais moi, dans ma tête, je suis plus en face de Mohamed Ali et Quincy Jones. J'ai l'impression de jouer pour mes grands-parents, mes deux grands-pères. Ce qui fait que moi, je m'agenouille en fait en forme de respect pour ces gens-là. Et je joue. Et ce qui a été pour moi le moment le plus intense, c'est que, sachant que Mohamed Ali avait Parkinson, ses yeux sont connectés aux miens. Et en fait, pendant tout le moment où je joue ce solo, je suis connecté à lui. Et je suis vraiment dans une bulle et je suis dans un monde parallèle, entre guillemets. Je fais mon solo et à la fin de solo, il me tend la main et je lui serre la main et je sais pas ce qui se passe et je suis loin. Je sais plus où je suis. Et j'en oublie d'ailleurs de remercier aussi Quincy Jones, ouais, qui était assis à côté. Et là, je repars sur mon praticable et je suis tellement touché par ce qui s'est passé qu'en fait, je pleure. Je pleure parce que j'ai touché la main d'une icône et que cette personne, à sa façon, m'a remercié, lui avoir fait voilà ce cadeau, mais que pour moi qui n'était pas un cadeau, c'était juste une forme de respect que j'avais pour lui et que je voulais jouer comme j'aurais joué pour mon grand-père s'il avait été présent. Et pour moi, c'est encore un truc qui moi aujourd'hui qui me donne des frissons et voilà quoi.
LH to LA, et il résume bien votre parcours, hein, Ludovic Louis, car vous êtes passé donc de LH Le Havre à LA Los Angeles, et la nouvelle collaboration, par exemple, avec Black Eyed Peas. There's more brothers in the prison than there ever was slaves, cotton picking. There's more brothers that's rotten in the prison than there ever was slaves, cotton picking. So how we gonna get about the trap? Guns and books sell crack or rap. Street living, hustle or hoops. Guns and books get shot or shoot. Black Eyed Peas ou encore Camila Cabello. Voilà, collaboration aussi avec Shawn Mendes, Kanye West et quelques autres. Pourquoi Los Angeles ?
C'est la ville où on peut tout faire. Musicalement, on peut très bien se retrouver le matin à faire une session dans un studio pour un artiste jazz, l'après-midi aller faire une séance de musique de film et le soir aller faire une émission de télé. Donc c'est la vie où tout est possible. Et vous voyez, toutes ces cultures aussi, tous ces mix qui moi m'intéressait aussi autant, voilà, tout ce qui est la culture latine avec toute la communauté latino à Los Angeles, mais aussi toute la communauté afro-américaine, voilà. Et c'est ce brassage qui m'intéressait, et c'est pour ça que je voulais me retrouver là-bas.
Votre vie, elle est là-bas maintenant.
Oui, ça fait quelques années maintenant, mais j'adore revenir dans mon pays, c'est important aussi, les racines, faut pas oublier ça.
Alors l'album, il a été enregistré entre Los Angeles et Maison Alfort, près de Paris.
Hein. Oui, Studio Soult.
Paris, où vous avez tourné une mini-série pour Netflix aussi, il faut pas l'oublier.
Oui.
Une série qui se passe dans un club de jazz parisien. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette aventure ciné?
Je me suis retrouvé dans cette aventure parce que j'ai rencontré Randy Kerber, qui est le pianiste dans la série, et Glenn Ballard, qui est un des producteurs de cette série, qui est aussi un très grand compositeur, qui a écrit pour plein de gens. Je les ai rencontrés à Los Angeles. Il m'avait parlé de ce groupe de jazz qu'il voulait créer. On a fait quelques concerts avec ce groupe. Et un jour, ils me disent, il y a une série qui a été achetée par Netflix et on souhaiterait que tu joues le rôle du trompettiste de groupe de cette série.
Voilà, sous la direction de Damien Chazelle, quand même.
Exactement.
Le réalisateur de La La Land, avec Taha Rahim, Leila Bekhti, plein d'autres stars, et de la comédie et de la musique. Comment est-ce que vous êtes entré dans le personnage que vous deviez jouer?
Alors, c'est vrai que
c'est la première fois que vous faisiez l'acteur.
Oui, c'était la première fois. J'ai eu la chance de parler avec Tahar Rahim juste avant ma première scène. Je crois que c'était la veille ou deux jours avant. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai un peu peur, quoi. Bon, je connais, je vois ce que j'ai à faire, mais j'ai un peu peur de pas être au niveau, quoi. Et il m'a donné, je pense, le meilleur conseil. Il m'a dit, écoute, vas-y comme tu es. Et de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, le réalisateur te dira ce qu'il faut changer. Et en fait, je suis arrivé, j'ai eu un petit peu, toujours un peu d'appréhension. Le premier action, ça fait toujours bizarre. Et après, je me suis pris au jeu et j'aime beaucoup ça. Et j'ai de la chance, d'avoir été sur cette série et de faire mes premiers pas de comédien. Et j'espère que cette route-là sera longue aussi.
Ah, d'accord. Vous avez déjà d'autres projets de ce genre?
Oui, j'ai eu la chance de tourner aussi dans une nouvelle série qui passe en ce moment sur Amazon Prime, qui s'appelle Mixed, où je joue le rôle d'un régisseur d'un théâtre. Et oui, ça a été mes débuts de comédien, et voilà, j'essaye de faire un peu les deux en parallèle, et c'est vrai que j'aime beaucoup, et je trouve un parallèle intéressant entre la musique et la comédie. Voilà, le fait de ressentir, vouloir faire passer les émotions sur la caméra, comme autant faire passer les émotions avec l'instrument.
Donc, jouer de la trompette, être acteur et chanter.
Oui,
aussi, parce qu'on entend votre voix sur l'album.
Oui, exactement. Je me suis lancé un petit défi. Je me suis dit, j'aimerais bien chanter. C'est vrai qu'à la maison, je chante de temps en temps. Je me suis dit, tiens, bon, c'est mon premier album, je vais me faire plaisir, je vais essayer de faire un titre chanté. Et je me suis assis, pareil, derrière mon bureau, et j'ai écrit Everybody. Et voilà, je me suis lancé mon petit défi, et j'en suis content, et j'espère que ce sera pas le dernier non plus.
Everybody, nouvel extrait de l'album Rebirth de notre invité Ludovic Louis dans VMDN, un album qui s'inscrit sous le signe du rouge. Pourquoi c'est un album rouge, Ludovic Louis ?
Ah, je trouvais là. En fait, c'est arrivé durant la séance photo quand je tournais le clip de Missing You avec la réalisatrice Karen Strauss. En fait, on était dans le couloir de l'hôtel où je faisais où je tournais le clip. Et en fait, elle me dit, tiens, on va faire quelques photos. Et en fait, donc, on a fait quelques essais. Et à un moment donné, je crois qu'un technicien est arrivé avec une lampe rouge. Et ça a donné cette photo. Et moi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais j'adore. Et en fait, on a fait toute une série de photos rouges. J'ai adoré cette photo. Comme quoi, des fois, juste un petit détail, quelqu'un qui passe avec une lumière rouge.
Voilà, encore une rencontre. Hein, vraiment, ça tient pas grand-chose. L'album Rebirth, donc Ludovic Louis, merci beaucoup. Je précise que vous serez en concert le 18 juillet hein, dans le cadre du festival Marseille Jazz des 5 continents. Hier soir, vous étiez au Baiser Salé. Oui. À Paris, c'est un peu votre club de jazz fétiche, ça.
Oui, oui, oui. Baiser Salé, c'est un peu ma deuxième maison, j'ai envie de dire. C'est le club parisien qui m'a permis de faire mes débuts. Quand j'ai commencé à vouloir faire mes premiers concerts en tant qu'artiste, ils m'ont ouvert les portes. Maria Rodriguez m'a dit « Vas-y, t'es le bienvenu ici et quand tu veux, tu viens faire des dates ». Donc, pour moi, c'était important de faire ce premier concert à l'endroit où j'ai fait mes débuts, entouré de mes amis. C'était important pour moi. C'est un album aussi avec mes amis et rendre hommage à toutes les personnes qui ont été là avec moi depuis le début, dont Baiser Salé. Donc c'était important de faire pour moi ce concert de release party au Baiser Salé.
C'est pas du tout la même chose de jouer à la trompette au Baiser Salé et de jouer dans un immense stade ou au festival Lollapalooza avec des grandes stars internationales du rock.
Non, c'est différent. C'est une forme de pression différente aussi parce que quand on joue avec des artistes, on accompagne des artistes, on se met au service des artistes, on essaie de donner le meilleur de soi-même pour embellir la musique des artistes, d'accompagner leur musique. Là, on vient défendre ses propres projets. C'est une autre pression qui est différente. C'est dans un cadre intimiste, on voit les têtes des gens, on voit les réactions et c'est différent. Et j'aime autant jouer dans des clubs que de jouer dans des stades.
Merci encore Ludovic d'être passé nous voir. Allez, on part au Japon avant de se quitter. On part en voyage sur la route du Kisokaido, un itinéraire qui est rallié Edo, l'actuel Tokyo, et Kyoto, à découvrir à travers les exemples, les estampes des plus grands maîtres japonais. Ça se passe jusqu'au 8 août au musée Cernouski à Paris, où Amélie Beaucourt s'est rendue pour VMDN.
Le Kisokaido, c'est l'une des 5 routes qui reliaient Edo, l'actuel Tokyo où résidait le shogun, le chef des armées, à Kyoto où vivait l'empereur. Un itinéraire en 69 étapes que les peintres de l'époque ont tenté de représenter. La série la plus connue a été commencée par Eisen en 1838, mais complétée par un autre maître de l'estampe, comme l'explique la commissaire de l'exposition, Manuela Moscatiello.
Il réalise 24 estampes, mais sans un souci topographique, c'est-à-dire il saute parfois des étapes. Et ce sera Hiroshige qui prendra le relais, qui terminera la série en réalisant les 47 estampes manquantes. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que c'est Hiroshige qui a traversé une partie de la route, en vrai, et qui à ce moment-là a réalisé des esquisses. Et on voit très bien à partir de ses esquisses comment il a pu réaliser une partie de ses estampes.
Scène de la vie quotidienne ou paysage pittoresque, cette première série rend compte de l'époque d'Edo, période qui s'étale entre 1603 et 1868, synonyme de prospérité et de calme, après 30 ans de guerre civile au Japon. Une époque qui se caractérise aussi par un rejet du monde extérieur, afin de conserver sans influence étrangère les traditions japonaises. Et c'est en découvrant la seconde série des stands de l'exposition qu'on s'en rend compte, une série beaucoup plus décalée, pleine d'humour, mais plus intellectuelle, signée Kuniyoshi.
La plupart de ces scènes s'inspirent de la littérature classique, du théâtre kabuki, du théâtre des marionnettes, des drames non, ou bien des récits de folklore japonais. Il y avait énormément de petits détails, c'était comme une sorte de rébus à résoudre qui permettait aux observateurs, il faut le dire, cultivés de l'époque, car à ce moment-là au Japon, le taux d'alphabétisation a été très élevé, qui arrivait justement à détecter, à comprendre parfois facilement de quelle histoire s'inspirait l'estampe.
Chez lui, l'estampe n'est plus une carte postale, mais un objet de divertissement. Plutôt que de représenter fidèlement la route du Kisokaido, il préfère tisser des liens, à travers des jeux de mots, entre le village étape et le folklore japonais. Exemple pour le 21e relais dans la ville d'Oiwake, là où ses prédécesseurs ont peint des voyageurs tirant leurs chevaux en flanc de montagne, lui a choisi la légende du fantôme d'Oiwa, que m'a raconté la commissaire.
Oiwa avait été empoisonné par son mari qui souhaitait se marier avec une autre femme. Les effets de ce poison font que son corps, et en particulier son visage, se dégrade, se déforme, et surtout qu'elle perd des cheveux. Et là, on la voit avec ses mèches dans les mains qui coulent du sang. C'est des détails très macabres, mais que la population de l'époque adorait. Et justement, ce Oiwake évoque d'un côté le nom de la femme, et que, ce qui signifie en japonais la chevelure, ce détail macabre de son histoire.
En plus des estampes, le musée Cernouski met également en avant des objets du quotidien des voyageurs qu'on retrouve sur certaines gravures, comme des bentobako, des boîtes à pique-nique de l'époque, ou encore de vieux nécessaires à tabac. Et pour faire le parallèle entre hier et aujourd'hui, l'exposition propose de revenir en photo sur l'évolution des paysages gravés. Si certains restent des écrins de nature pratiquement inchangés, d'autres ont bien sûr subi l'influence de la révolution industrielle et n'ont plus rien à voir avec les estampes des maîtres japonais.
Amélie Beaucourt pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Salch pour son adaptation un peu trash et même franchement déjantée des Misérables de Victor Hugo. Album disponible chez Glénat. C'est évidemment une bande dessinée et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Sept milliards de voisins.